Sœur Monique, quel plaisir de vous retrouver après tant de mois de pèlerinage ardent. Nous sommes bien au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Ben Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Ablot dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc. Le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, bah, y compris celle d'Erwan Sommerer pour un livre. Alors, l'anarchisme sous la Révolution française, je dis bien l'anarchisme, hein, aux éditions du Monde Libertaire. Voilà. Alors, j'ai lu ce livre avec moi, grand plaisir. Hein, de grand plaisir. Alors, pour des raisons simples, déjà, il vaut 5 euros. Non, mais là, je plaisante pas. On le met dans le sac et on a de quoi de réfléchir pendant des temps. C'est très, très bien fait et voilà. La couverture est très belle, déjà. Malheureusement, il n'y a pas d'indication. La couverture, le dessin de couverture, c'est quoi ?
C'est un dessin, une gravure d'origine qui est sans auteur, semble-t-il, et qu'on a utilisé. Donc c'est un dessin, c'est une esquisse d'une peinture plus ancienne qui date du 19e siècle.
Et ce serait quoi ?
Alors, c'est la chute de la monarchie.
Ah, voilà. C'est très bien, oui.
Le moment d'avènement de la République qu'on a choisi, qui n'est pas tout à fait dans le sujet, mais qui est en tout cas caractéristique d'un moment de contestation et de seconde révolution.
C'est l'anarchisme sous la Révolution française. On aurait dit l'anarchie, ça aurait été un contresens.
Ça dépend en quel sens on l'entend, mais il s'agissait effectivement de pas se contenter de pointer les moments qu'on qualifie à l'époque d'anarchie, c'est-à-dire de désordre pur, mais d'interroger les auteurs qui se sont penchés sur la valeur de la désobéissance et de la contestation.
Mais le mot politique, historiquement, vient bien plus tard. Il faut attendre Proudhon dans les années 40 pour que le mot anarchie prenne sa valeur politique, c'est ça, en fin de compte.
Oui, alors l'idée que j'essaie de développer dès l'introduction du livre, où il est question d'anachronisme, c'est finalement que le mot n'est qu'une étiquette tardive pour un ensemble d'idées et de comportements qui ont existé sans doute depuis bien plus longtemps que 1840 ou la fin du 19e, lorsque le mot anarchisme se popularise. Donc c'est l'idée qui est partagée par certains historiens de l'anarchisme, c'est l'idée que l'anarchisme existe depuis que l'État existe ou que les institutions existent, et donc particulièrement dans des périodes de contestation, de désobéissance, où certains penseurs ou certains militants ou activistes vont peut-être sans le dire, sans le mot en tant que tel, avoir un comportement typiquement anarchiste, en tout cas au sens où j'ai essayé de le définir.
Alors, avant qu'on plonge dans le livre, il m'est arrivé deux petites aventures. J'ai lu le livre il y a 2 mois environ, et j'ai pris un magazine, et à ma grande surprise, je trouve une apologie des thermidoriens, ce que je n'avais pas vu depuis des temps et des temps et des temps. Juste avant l'émission, il y a 2-3 jours, je reprends un magazine, je crois que c'est Le Monde, c'est dans Le Monde, un nouveau livre faisant l'apologie des thermidoriens. Alors, quand on regarde, c'est un hasard ou pas, ou c'est l'époque qui amène ça ? Pour que brusquement on se reprenne, ou alors est-ce que ça tient debout de présenter les thermidoriens comme un phénomène de démocratie, par exemple ?
Ça tient debout dans la mesure où Thermidor et le Directoire, ensuite, ont toujours été le point de fixation culturel, intellectuel, d'une certaine historiographie libérale, démocratique et libérale. C'est la fin de la révolution à la Robespierre, c'est la fin de la révolution sous son aspect le plus controversé, le plus radical, et donc Thermidor, c'est le moment où on va commencer à bâtir, et ça prend forme en l'an 3, en 1795, pendant l'été 1795, on commence à bâtir un régime qui se veut un régime économiquement libéral, religieusement libéral aussi avec la liberté de culte. Et puis politiquement, c'est une démocratie représentative bon teint. Donc c'est vraiment la tentative pour mettre en place des institutions qui peuvent être interprétées comme réellement, cette fois, la République libérale représentative telle qu'ensuite on a continué à la bâtir. Donc c'est le virage à droite de la Révolution française.
C'est le virage à droite.
Le virage conservateur, c'est le moment où on se dit, tiens, on est allé assez loin, peut-être trop loin, on va en reparler peut-être tout à l'heure. On a voulu démolir trop de choses, et donc revenons sur un point d'équilibre un peu plus légitime, des institutions stables, des élections libres, liberté de culte, avec une élite représentative qui est la bourgeoisie commerçante alliée à quelques grands propriétaires terriens qui peuvent être ou non issus de l'ancien régime ou qui sont des nouveaux propriétaires. C'est le grand régime libéral des propriétaires.
Là, on est arrivé à l'antithèse de l'anarchie.
En quelque sorte.
Voilà.
Oui, en quelque sorte, où vont émerger des personnalités dont les vœux, ce ne sont plus les grands noms, si tant est que ce soit des grands noms de la Révolution française,
ouais.
Donc les Danton, les Marat, les Robespierre, en tout cas des noms qui méritent qu'on s'y attarde. Ce sont des noms parfois moins connus, sont des conservateurs, sont des gens qui veulent terminer la Révolution.
Talien.
Il y a Talien, Boissy d'Anglas,
Barras,
et puis Constant, Madame de
on
Stal,
va y revenir,
les
voilà.
Idéologues qui vont tous s'affairer pour trouver un moyen d'empêcher la désobéissance, l'esprit critique de perdurer. À un moment donné, il s'agit de trivialement de siffler la fin de la récréation, dire voilà, on a beaucoup contesté, comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire durer le régime qu'on a construit. Et donc il n'est plus question de révolution, il est question de constitution et d'institutionnalisation de la révolution.
Donc tu vas être d'accord avec moi, je pense, il y a l'histoire, il y a aussi la lecture de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a très longtemps vécu avec, sur la Révolution française, ce qu'on a appelé une historiographie marxiste.
Oui. Tout à fait.
Voilà.
Ça a été même le courant historiographique dominant, grosso modo, jusqu'à François Furet, pour dire les choses simplement, jusqu'à ce qu'il y ait une contre-historiographie de droite qui, je simplifie un peu, mais enfin qui émerge dans l'espace intellectuel français. C'est vrai que le marxisme a été le courant culturel, le courant d'idées qui s'est approprié le plus facilement cette révolution, puisqu'elle était théorisée par les marxistes comme une étape dans le processus révolutionnaire.
Alors, on en arrive au sujet. Est-ce que le marxiste, lui, a fait dire à ces gens-là des choses qu'il ne disait pas? Je veux dire, par exemple, de voir la dictature du prolétariat dans la démarche de la Révolution, est-ce que c'est vraiment contenu dans la Révolution ? Ou c'est une volonté a posteriori ?
Ce sont des interprétations. Ce sont des interprétations, mais qui collent bien avec la façon de faire marxiste, qui est d'ailleurs tout à fait intéressante, c'est-à-dire donner un sens a posteriori à l'histoire. Trouver des lois dans l'histoire, mettre en rationalité l'histoire. Donc la Révolution française, événement surprenant, événement choquant sur l'espace public et politique européen.
Sans précédent.
Oui, sans précédent, dans une large mesure. Encore que la réforme luthérienne ait été un premier traumatisme quelques temps auparavant, quelques siècles auparavant, mais c'est un événement que le 19e siècle, les penseurs du 19e, Saint-Simon, Comte, les Hegéliens et puis les marxistes ne vont cesser de tenter d'incorporer à une certaine rationalité de l'histoire. Qu'est-ce que vient faire là-dedans la Révolution française ? Et donc on va la penser comme une étape, comme un moment clé, mais cohérent, logique, qui annonce la suite. Et ce faisant, bien sûr, on projette sur la Révolution française des tas de choses. Mais pourquoi pas ? À la limite, on peut trouver intéressant l'historicisme de Saint-Simon ou de Comte, parce qu'il dit quelque chose sur la façon dont on perçoit la Révolution au XIXe siècle également.
Mais je veux dire que la mainmise du marxisme sur la Révolution française a expliqué pourquoi les thermidoriens, c'était la chose la pire qui puisse arriver.
Ah bah, thermidor, c'est le mal absolu.
Le mal absolu, c'est ça que je veux dire.
Oui, être taxé thermidorien dans la Russie des années 20-30, c'est être le contre-révolutionnaire. Trotsky en fait un des éléments moteurs de sa critique ensuite du stalinisme. Voilà, le thermidor soviétique, c'est le moment où la réaction interrompt le flux révolutionnaire, interrompt le processus de révolution permanente, c'est-à-dire de la révolution jusqu'à son terme, et on se retrouve avec un système de droite conservatrice.
Alors, est-ce que voir arriver une apologie des thermidoriens, c'est pas en fin de compte la fin définitive de la lecture marxiste de la Révolution ?
Ça l'est depuis François Furet.
Depuis ce
virage à droite que j'évoquais tout à l'heure. On a deux historiographies concurrentes, mais qui ont leurs nuances. François Furet reconnaît l'importance de l'historiographie marxiste et dialogue pour la critiquer avec elle, et les historiens de la Révolution française qu'on situera plus à gauche, voire qui se diront encore aujourd'hui marxistes, étudient Thermidor et le Directoire, puisqu'il est très très important de regarder cette période qui est fondamentale pour comprendre comment une révolution s'arrête. En tout cas, comment l'impulsion révolutionnaire est endiguée à des fins conservatrices pendant les années du Directoire 1795-99.
L'idée de ton livre, c'est venu comment, comme ça ? Il y avait un manque quelque part, ou ça avait déjà été écrit sur le sujet ?
C'est à la croisée de plusieurs choses. À l'origine, je m'intéressais à Sieyès. Et j'avais été frappé, et c'est d'ailleurs tout le travail que j'ai essayé de faire sur cet auteur depuis une dizaine d'années, par la façon dont il passe d'une optique révolutionnaire intransigeante, très radicale, même très violente par certains aspects, à une optique conservatrice tout aussi radicale sous le Directoire à la fin de la Révolution française. Et en même temps, je trouvais que la première impulsion, c'est-à-dire l'impulsion révolutionnaire chez Sieyès, comparée à celle de Condorcet, par exemple, trouver des similitudes avec tout un ensemble de discours, de pensées, de pratiques propres aux anarchistes du 19e et du 20e siècle. Je pense notamment, alors je parle de Stirner, de Gustav Landauer également dans mon livre, il y a quelque chose qui collait. C'est-à-dire, il y a des similitudes extrêmement frappantes, mais qui ne sont pas dues au hasard. Je pense que les anarchistes au 19e et au 20e ont lu, connaissent la Révolution française, ont lu ses auteurs. Qu'est-ce que le tiers-état de Sieyès ? C'est un texte qui circule beaucoup tout au long du 19e et c'est un texte qui est beaucoup lu. Proudhon connaissait les auteurs de la Révolution française. Et donc certains thèmes sieyésiens, comme la lutte contre les préjugés, contre la tradition, on en reparlera peut-être, la notion de pouvoir constituant, sont des thèmes qui ont toujours interpellé les anarchistes ou en tout cas les mouvances révolutionnaires.
Sieyès, c'est pas l'exemple type de celui qui commence une révolution pour justement la finir dans l'ordre, dans le pouvoir, c'est-à-dire c'est pas le type même du grand écart.
C'est le type même du grand écart et en même temps c'est celui qui invente ce grand écart, en tout cas. Ouais.
Non, c'est parce que j'ai senti une sympathie très grande en te lisant sur Sieyès.
J'ai de la sympathie pour les trajectoires complexes. Et donc c'est vrai que je me refuse d'une certaine façon à juger ce que peut être la trajectoire de tels individus pendant une séquence révolutionnaire. Ce sont des personnalités comme Marat, d'ailleurs, même si Marat devient une ordure à la fin de sa vie. Et Sieyès en est une aussi. Mais ce sont des individus qui font la révolution et qui en même temps, à un moment donné, se perdent en cours de route, puisque la révolution est un bien difficile à valoriser en tant que tel. Ils sont tentés de valoriser ce bien, qui est la désobéissance, l'esprit critique, la révolution. Et puis à un moment donné, il y a la fatigue, il y a la terreur. Voilà. Ça c'est passe par là. Il y a quelques...
Très drôle, parce que c'est un des mots clés que j'ai souligné dans le livre. C'est-à-dire qu'on arrive... On a des idées, de l'idéologie, on suit, et il y a un facteur psychologique qui arrive, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'accélération de l'histoire, mais si on regarde 89, on va jusqu'en 94, j'ai envie de dire qu'il y a 5 ans, ça a été excessivement vite, les gens ont été excessivement fatigués à la fin.
Il y a un épuisement, il y a un épuisement des premiers révolutionnaires, ceux qui survivent. Mmh. En tout cas, on parlait de Sieyès, il ne faut pas oublier que c'est l'un des rares, finalement...
Qui tient le choc.
L'un des rares qui est au premier rang en 1789 et qui tient
le choc. On le revoit après sous le consulat, de toute façon, non ?
Oui, c'est une bête politique.
Bien sûr,
c'est quelqu'un qui se cache au bon moment. Également, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'efforts non plus pour aider certains de ses amis, notamment Condorcet, pendant la terreur. Et puis c'est quelqu'un qui ressurgit sous le directoire et qui redevient une personnalité importante. Il est directeur et c'est lui qui aide Napoléon à prendre le pouvoir... en 1799, et puis ensuite sous le consulat, il est couvert d'or, de titres et de gloire, et donc il disparaît petit à petit de la circulation. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que dans cet événement de 89 à 99, dès 1790, certains sont fatigués. Mmh. Des gens comme Lafayette, Barnave, Malouet, ce qu'on va appeler la droite, mais qui sont en 1789, qui sont la gauche. Mmh. Barnave incarne la gauche révolutionnaire, et puis un an plus tard, ce sont des gens qui sont fatigués, un an ou deux ans plus tard. Ce sont des gens qui pensent à terminer la révolution dès 1790, et qui n'ont même pas conscience encore que les événements vont les amener, pour ceux qui vont survivre, encore une dizaine d'années, voire encore plus loin pour certains d'entre eux.
Mais il faut savoir aussi, à l'époque, savoir lire l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle de cette accélération de l'histoire, ils y vont vraiment à l'azimut. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils vont.
Non.
Il n'y a pas de précédent. C'est ça, j'y reviens. Enzo Traverso, je ne sais pas si ça t'inspire,
oui.
Non, fait une comparaison avec les révolutions arabes, en disant qu'il n'y a pas de précédent.
Oui.
Et c'est pour ça que ça échoue.
Il y a quelques modèles en circulation pendant la Révolution française. Il y a le modèle anglais. La Révolution glorieuse, les premiers en 1789, ceux qu'on va appeler les monarchiens autour de Mounier, sont des gens qui voudraient arrêter la Révolution sur un modèle institutionnel relativement clair, qui est le modèle institutionnel anglais. Ce sont des lecteurs de Montesquieu, qui pensent que l'Angleterre a trouvé un bon régime, avec une distinction entre deux chambres, un roi, etc. Mais c'est le modèle qui est très vite, qui s'évapore très rapidement. Et finalement, le modèle, c'est vrai qu'il navigue en quelque sorte à vue, mais ils ont quand même derrière derrière tout ça, ce que j'ai essayé de montrer dans un des chapitres du livre, celui sur Saint-Just, ils ont un autre modèle, qui est celui de la Grèce antique, mais surtout de la République romaine. Sûr. Ce sont des gens qui sont à Paris à la fin du XVIIIe, comme on est à la République romaine, au moment où cette République, alors soit au tout début, lorsqu'elle parvient à battre la monarchie, soit à la toute fin, lorsqu'elle lutte contre le tyran, présenté comme tel, César. Il y a les deux Brutus, au début et à la fin de la République romaine, qui sont les deux modèles, les deux figures qui sont invoquées par les révolutionnaires. Donc il y a aussi une part de, je vais dire, de folie anachronique, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pendant la Révolution française. Ce sont des gens qui ont appris l'histoire, le latin, l'histoire de la République romaine, comment elle a fini en empire. Ce sont des gens qui sont pour Brutus contre César, qui pensent que l'assassinat de César par Brutus est un geste tyrannicide glorieux, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, puisqu'on vit dans des systèmes césaristes. Donc Brutus est une figure maintenant reléguée un peu au second plan, ou connotée péjorativement, mais à l'époque, il rejoue l'épopée de la République romaine. Et il se voit fondateur d'un même type de République, tout comme contre Tarquin. En son temps, la République romaine s'était fondée.
Cette révolution, en fin de compte, très rapidement, elle est pyramidale. C'est-à-dire, en parlant très très simplement, il y a ceux qui sont lettrés et ceux qui ne sont pas lettrés. C'est-à-dire, qui se retrouve, en fin de compte, à mener ça, c'est quand même une phase de la bourgeoisie.
Oui, c'est le fameux tiers-état de Sieyès. Qu'est-ce que le tiers-état ? Voilà, ce peuple qui ne demande qu'à prendre le pouvoir, c'est en fait une faction très minoritaire de la bourgeoisie. Oui. Quelques lettrés, commerçants, avocats, professions libérales. C'est un monde assez feutré. Et les tout débuts de la Révolution, 89-90, sont la Révolution monarchiste. Il ne faut pas l'oublier. Ils veulent une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Il n'est pas question d'abolir la monarchie pendant les deux premières années de la Révolution française. Et très vite, ces gens-là se retrouvent soit débordés, soit conduits à gérer quelque chose qu'ils n'attendaient pas, qu'ils ne soupçonnaient pas, c'est-à-dire des émeutes. Des émeutes paysannes, des émeutes populaires à Paris. Et donc, on a très rapidement une interaction problématique entre des révolutionnaires qui pensaient terminer assez vite leur travail sur le modèle d'une monarchie parlementaire, constitutionnelle. Il fallait constitutionnaliser la monarchie. Et puis, des mouvements populaires qui demandent plus ou qui sont interprétés par certains comme demandant plus. Et à partir de 1792, ce sont les Jacobins qui vont se faire les porte-parole de ce mouvement-là, en tout cas parisien.
L'exemple type, c'est Sade qui va faire l'éloge funèbre de Marat. Lorsque Sade va rejoindre la section des Piques, je crois que c'est la Bastille, il ne supporte pas les sans-culottes. Il est quand même le lettré, l'écrivain qui ne peut pas se mêler au peuple.
Oui, parce qu'il y a, je crois, une ambiguïté fondamentale parmi les révolutionnaires parisiens, qui est que les sans-culottes font peur, les émeutes font peur, et même chez les Jacobins, après tous les historiens ne seraient pas d'accord avec cette thèse, il s'agit d'orienter, de contrôler le mouvement des sans-culottes, il s'agit de s'en faire, à travers la figure de Robespierre et quelques autres, les porte-paroles, mais les sans-culottes font peur, et le bas-peuple parisien, constitué principalement d'artisans, fait peur, y compris au sein du club des Jacobins. D'ailleurs, le club des Cordeliers, incarné par Danton, par exemple, est réputé plus populaire que le club des Jacobins, qui est un club très, très, très lettré, comme tu dis, rapport à celui des Cordeliers. Et on s'aperçoit qu'avec la figure de Marat émergent des tribuns plus viscéraux, plus colériques, plus spontanés, qui, eux, sans avoir beaucoup de confiance dans le peuple, parce que Marat avait une sorte de mépris vis-à-vis de la tendance du peuple à s'endormir, à oublier qu'il est tyrannisé, vont se faire des porte-paroles plus galvanisants de ce bas peuple parisien.
Alors, avec ce livre, on touche à la politique, on touche aux politiques, c'est quand même différent, on touche à la morale, on touche à l'éthique, et la phrase vient d'arriver là, aussi au psychologique, c'est-à-dire, on voit un Marat, pour qui moi j'ai une grande sympathie, oh, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est quand même l'atrabilaire à la vitesse grand V, c'est quelqu'un qui est perturbé au niveau humain.
Oui, je pense qu'il l'était.
Voilà.
Je pense que, bon, sans pouvoir, bien sûr, me prononcer d'un point de vue historiographique là-dessus, Marat est quelqu'un qui est absolument virulent. Et le Marat de l'Ami du Peuple, parce qu'il y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs Marats, plusieurs étapes, mais le Marat qui rédige l'Ami du Peuple est quelqu'un d'absolument terrifiant par ses vitupérations, par sa colère, par sa haine des élites, par la façon dont il dresse quasiment des listes de représentants dévoyés ou de ministres dévoyés à envoyer à la guillotine. Et je crois qu'à travers lui, le maratisme, c'est ça, c'est cette haine permanente des élites qui a quelque chose à voir avec l'anarchisme, à mon avis.
Est-ce que la Révolution française est récupérée par l'extrême droite, par exemple ? Notre camarade Juppé, la dernière fois, Fillon, qui n'est pas venu sur Onde de Choc ni sur Radio Libertaire encore, en appelait aux sans-culottes, par exemple. Il a fait un discours, vous les sans-culottes, oui. Il en appelle aux sans-culottes.
Alors ça, c'est quelques dérapages, peut-être un petit peu démagogiques ou populistes de sa part, parce que un Fillon n'a aucun rapport dans quelque domaine que ce soit avec la sans-culotterie parisienne pendant la Révolution française. Il y a d'autres personnalités, je crois que Bayrou avait écrit sur Sieyès et le tiers-état, voilà, donc il y a des tentatives de récupération par une certaine droite, mais encore une fois plutôt une droite libérale et conservatrice. Par l'extrême droite pure et dure, c'est un peu plus compliqué, même si on peut bien sûr voir dans la Révolution française une geste patriotique et nationaliste. C'est quand même la France à l'assaut du monde. C'est l'universalisme français qui monte à l'assaut de l'Europe. Donc il y a du nationalisme. Sieyès est le premier à appeler le fruit du contrat social lorsque les individus s'allient entre la nation, en distinguant bien ceux qui passent le contrat, qui sont les bienvenus, et ceux qui sont extérieurs au contrat, qui sont naturellement en état de guerre contre la nation. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert que ce que l'extrême droite en fera un siècle plus tard, mais on peut toujours puiser des choses dans la Révolution française. L'extrême droite a plutôt puisé du côté vendéen. Quand on est à l'extrême droite en France, un peu catholique, intégriste, monarchisant, on va plutôt mettre dans sa chambre des posters de héros vendéens, de prêtres massacrés par les Jacobins. Voilà, on verse une petite larme sur ce qui s'est passé en Vendée à l'époque. C'est plutôt ça l'optique. Et donc on vomit la République et on vomit surtout le jacobinisme de Robespierre.
Il y a une phrase à risque, c'est une phrase de Jean Mettron dans ton livre, c'est « L'esprit libertaire serait inhérent à l'homme ». Et cette phrase, elle est extrêmement à risque, parce qu'on pourrait dire n'importe quoi à la place. On pourrait dire que le fascisme est inhérent à l'homme. Pourquoi, et après tu peux y aller. Oui. Et c'est parce que, par esprit de perversion, de faire l'avocat du diable, j'ai cherché, comme je te disais hors antenne, des traces d'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas des textes desquels on pourrait tirer une substance d'extrême droite dans les textes de la Révolution française ?
On pourrait, d'un certain point de vue, enfin, si on cherche de l'extrême droite, on peut en trouver. On pourrait même, si on y allait de façon un peu hardie, qualifier la terreur de période d'extrême droite, de période d'ordre absolu projeté sur une société avec une répression extrêmement intense. Si l'extrême droite, c'est l'ordre effréné et la répression tout aussi effrénée, finalement, on voit pas pourquoi Robespierre ne pourrait pas être une figure récupéré par l'extrême droite. D'autant plus qu'on a parmi ces gens-là certains intellectuels, certains jacobins ou cordeliers fascinés par le modèle spartiate, qui a pu nourrir aussi une certaine fascination dans l'extrême droite.
Mais j'ai vu des textes d'extrême droite sur le clamant de Robespierre, moi j'en ai
vu. Oui, c'est très possible. J'ai jamais parcouru cette littérature, mais c'est très possible. C'est une sorte de héros nationaliste intransigeant, finalement. Donc on peut lui faire dire ce genre de choses. Je pense que Mettron, optimiste, voyait dans la nature humaine quelque chose comme l'esprit de désobéissance, l'esprit de contestation. Vous pouvez bâtir l'ordre le plus musclé et le plus absolu possible, vous aurez toujours, à un moment donné, l'émergence d'une forme de critique, de mise en cause, de contestation, et peut-être perception des institutions, peut-être pas l'abolition des institutions, mais enfin une perception péjorative qui dressera l'homme contre les institutions, donc une perception péjorative des institutions. Je pense que c'est ça ce qu'il a voulu dire.
Avant de prendre chacun des personnages, il y en a cinq ou six, on s'aperçoit qu'un Sieyès et d'autres ont fait des grands écarts comme ça. L'exemple type, est-ce que c'est pas un Fouché qui a une position extrêmement, enfin, contre libertaire au début de sa vie. Il faut quand même rappeler qui il a été. Il a été, tu connais ça mieux que moi, il est quand même...
Oui, il est proche des exagérés. C'est un athéiste radical. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un courant qu'on pourrait qualifier peut-être d'extrême gauche de la Révolution. Avec quand même chez lui un vrai, si l'on en croit ses biographes, appétit pour la terreur. On est donc quand même dans quelqu'un qui a, chez quelqu'un qui a un rapport à la violence et un rapport administratif, parce qu'il l'organise. Certaines phases de terreur en province, à Lyon par exemple, et donc c'est quelqu'un qui a quand même un rapport à la violence politique extrêmement autoritaire.
Il y a un côté pathologique aussi.
Virulent. Oui, sans doute.
On peut le dire, oui. Il y a un côté
donc,
pathologique.
Anarchiste, disons que il y a déjà dès le départ finalement un rapport, alors c'est vrai, un rapport à la religion extrêmement radical, il est radicalement athéiste, un rapport à la propriété relativement...
Est-ce qu'il demeure athée lorsqu'il est, par exemple, ministre de la police, où il a fait aussi un grand écart?
Il est pragmatique, mais il n'y a pas de remise en cause. Il est beaucoup plus pragmatique.
D'accord.
Il est beaucoup moins... c'est un athéisme tout intérieur, s'il perdure. En tout cas, en tant que ministre de la police, sous le consulat et sous l'Empire, c'est quelqu'un qui transige volontiers avec le clergé, avec la religion. Non, c'est quelqu'un qui fait le grand écart, mais dont on peut sentir, dès le départ, certains prémices autoritaires. Je pense, c'est pour ça que, après l'avoir étudié, après avoir parcouru sa biographie, je suis allé voir aussi les textes qui étaient réputés les plus radicaux de Fouché.
Alors,
certains ont dit par exemple que la révolution est prioritaire par rapport à la loi. Je me disais, tiens, c'est très intéressant. Voilà quelqu'un pour qui la désobéissance est primordiale. Et en fait, tout ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut réprimer de manière très intensive le clergé ou les ennemis de la Révolution sans s'en remettre aux lois. Et donc, on n'est quand même pas tout à fait dans l'anarchisme ou dans une personnalité anti-autoritaire. Et j'ai considéré qu'il n'était absolument pas exploitable parce que c'est quand même un massacreur, même quand il est d'extrême gauche. Et puis ensuite, il continue à l'être, mais en tant que ministre de la police. Donc,
C'est bien de dire d'employer le mot extrême gauche.
Oui, je crois. Je crois que c'est... Ça me dérange pas. Parler d'extrême gauche, de gauche, de droite et d'extrême droite pendant la Révolution française, ça ne me pose pas de difficulté. Le partage gauche-droite apparaît dès l'automne 1789, avec la question du veto royal. Et donc, à partir de là, même si le clivage gauche-droite n'est pas à ce moment-là, je pense qu'on a un repère, même si les députés et les représentants à la Constituante ne se mettent pas à gauche, à droite de façon systématique, on a un repère qui est finalement tout à fait opératoire. Il faut être nuancé, il faut être précis, il faut apporter des détails, dire qu'il y a une gauche et une droite ne suffit pas. Mais à un moment donné, on le voit à l'occasion de certains débats, il y a une gauche et il y a une droite, il y a une extrême gauche, une extrême droite.
Cet accélérateur, avant qu'on écoute un peu de musique et puis qu'on les prenne un par un, cette accélération de l'histoire ou cette lecture de l'histoire, ça me fait toujours penser à Bertolt Brecht. Brecht est né fin 19e. Il a 18 ans ou 20 ans sous les Spartakistes. 10 ans plus tard, il se retrouve sous les nazis. Il émigre au Danemark pour commencer, aux États-Unis, et quand il revient, il se retrouve dans l'Allemagne de l'Est, c'est pas Necker, c'est juste celui qui est avant. C'est-à-dire, c'est une accélération de l'histoire prodigieuse, et comment on peut comprendre quelque chose? Comment ces gens de la Révolution 89, on va 94, on ira après sur le directoire, elles ont pu lire l'histoire?
Ils étaient surpris par l'histoire dans une large mesure. Il y a une... alors, je ne sais plus si c'est de Vauvel ou de Mathiès, justement. Ça doit être Vauvel qui parle des Jacobins sous le Consulat, puis l'Empire, et il raconte comment ces gens-là sont perdus. Il ne faut pas oublier, je le dis au début du livre, que les derniers meurent dans les années 1830. Et donc, ce sont des gens qui font l'histoire à une vitesse effarante pendant 10 ans, et qui ensuite se retrouvent dans un monde, et dans plusieurs mondes successifs, qu'ils ne comprennent plus, pour certains d'entre eux. Certains y arrivent très bien. Quelqu'un comme Lafayette,
j'allais vous le dire,
par exemple,
le dire,
un Constant qui est plus tardif.
Ils s'en tirent bien.
Voilà, certains s'orientent
bien, ouais.
Parce qu'ils ont des idées qui sont relativement non pas interchangeables, au contraire, il y a une grande permanence chez gens comme Constant et Lafayette, mais leur idée d'un système représentatif, d'un parlement s'accommodant très bien d'un exécutif, que ce soit un roi ou un empereur, leur permet de passer plusieurs régimes sans trop de casse. Leurs convictions leur permettent d'endosser sans trop de difficultés plusieurs
C'est quand même les deux qui sont très proches de l'ordre établi.
Ah oui. Oui,
on ne peut pas dire, le contraire. La Révolution, c'est quand même le grand tremblement. Eux, Lafayette, depuis le départ, c'est quand même une monarchie plus ou moins constitutionnelle.
Hein. Lafayette, c'est le premier en 1790 qui dit qu'il faut s'arrêter. La Révolution est arrivée, arrêtons, on ne va pas commencer à mettre en cause la monarchie, la propriété. C'est le premier à sentir en 1790 que si on va plus loin, ce qui a été fait, on va mettre en cause des choses que lui ne veut pas contester, notamment l'État, la propriété, l'idée qu'on a un roi, etc. Et Constant, qui arrive plus tardivement sous le directoire, est un peu une sorte de jeune Lafayette, qui est un homme d'ordre également, qui s'emploie à terminer la Révolution, et pour qui, ce que j'ai essayé de montrer dans le chapitre avocat du diable que je lui ai consacré, c'est l'anti-anarchiste. Constant, tout vaut mieux que la Révolution. Pour Constant.
On va écouter de la musique et on va justement commencer par la fin, par Constant. Voilà. Et merci Monique au 01 43 71 89 40, toujours aux éditions du Monde Libertaire, l'anarchisme sous la Révolution française, Erwan Sommerer. Petite parenthèse, Peter Weiss a écrit un Marassad. C'est l'année 63, il est allemand de l'Est. C'est une des textes qui montre bien le bordel, au sens réel du terme, que ça a pu être dans la tête des révolutionnaires. L'histoire est sainte, c'est simple. Sade finit sa vie à Charenton. Toute sa vie, il a voulu écrire du théâtre. Il fait jouer les fous et il met en scène l'assassinat de Marat.
Je connais pas ce livre, je le lirai avec...
ça faut le lire, et c'est très, je suis sûr que moi, c'est très très proche justement de l'ébullition, de l'effusion, des incertitudes qui ont pu exister à un moment donné.
Oui, la question de l'incertitude, tu as raison, est très importante, parce que on est quand même dans un monde où, du moins à partir de 1792, un discours raté, je force le trait, mais un discours raté, peut envoyer quelqu'un à l'échafaud très rapidement. En plus, c'est donc une mauvaise décision, une mauvaise idée, une mauvaise parole peut mettre sur une pente de stigmatisation publique, et Marat est le premier à stigmatiser ses ennemis, qui annonce d'une certaine façon, pendant la terreur, la guillotine, ou qui vous met en prison, et en prison on massacre aussi allègrement. Et l'incertitude, ça va être l'obsession des thermidoriens et des directoriaux. Comment juguler l'incertitude? Comment stopper l'incertitude? Surtout que ce sont des gens qui organisent quand même des élections tous les ans sous le directoire. Et donc, comment empêcher que les élections amènent trop d'incertitude le jour J, trop d'incertitude dans les institutions? La méthode étant de faire en sorte que les gens votent pour les bonnes personnes au bon moment. Donc on va juguler l'incertitude en limitant considérablement la liberté d'expression.
Bah, celui qui l'a fait le mieux et le plus clairement dans ton livre, c'est Benjamin Constant.
Oui.
Avec lui, j'ai envie de dire, la révolution est finie.
Oui. Oui, en tout cas, il le croit. C'est le jeune Constant qui arrive à Paris à l'époque du directoire et qui décide tout d'abord, après il changera d'avis, mais enfin il a une trajectoire complexe, de se rallier à la République directoriale. Et donc il est avec Madame de Staël, il est l'un des grands artisans de tout un ensemble de théories visant à terminer la révolution. Comment faire pour terminer la révolution? Et ça n'est pas qu'un intellectuel dans sa tour d'ivoire. C'est un jeune politiquement impliqué, il fait partie de plusieurs cercles importants, notamment le club de Salm, qui est le surnom du cercle constitutionnel, qui participe, qui est instigateur d'un coup d'État républicain en 1797. Et donc Constant dit, voilà, on a un résultat, la République directoriale. Comment faire maintenant pour préserver ce résultat? Comment terminer la révolution?
Constant, c'est pour ça que je l'ai qualifié. On l'a pas vu en 89, on l'a pas vu en 90. Il apparaît seulement réellement qu'à la...
Oui. Il arrive à ce moment-là en France. Il arrive à Paris tardivement. Mmh. Madame de Staël le prend sous son égide, sous son aile, l'introduit dans les milieux républicains auprès de Barras. Et donc il s'agit de faire de Constant. C'est l'étoile montante de la République directoriale pendant cette période. Et ses idées sont en phase avec ce qu'il est, c'est-à-dire un jeune homme d'ordre, un jeune homme qui défend le régime dans lequel il arrive. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, sa thèse de fond, c'est que tout vaut mieux qu'une nouvelle révolution. Une nouvelle révolution, qu'elle aille vers l'avant ou vers l'arrière, c'est-à-dire une contre-révolution, serait la pire chose pour la République. Et donc, il s'agit de sonner le ralliement. Voilà, ralliez-vous à la République. Son rôle d'intellectuel engagé, organique, en quelque sorte, sous le directoire, c'est de rallier le plus en plus de bases sociales, et notamment les propriétaires, les acquéreurs des biens nationaux et les anciens propriétaires à la révolution. Trouver un socle, tout simplement.
C'est l'homme de l'histoire préféré de Giscard d'Estaing. Hein.
Oui, alors c'est possible. Bon, c'est peut-être pour sa trajectoire libérale par
plus
la
tard,
suite.
Plus tard.
Ce grand libéral que Giscard d'Estaing a trouvé à s'inspirer, peut-être.
Mais c'est quelqu'un qui est très serpentin. C'est-à-dire que lorsque Napoléon revient de Waterloo, il faut rédiger un acte constitutionnel. C'est Benjamin Constant qui le fait.
Oui, c'est. Alors, je pense que Constant, tout en étant très ondoyant dans sa. Dans sa trajectoire, et restait finalement adossé à peu près aux mêmes idées. Son système politique, c'est un système de liberté économique, c'est un système de liberté politique limitée, où le principe, il le dit dans son discours sur la liberté des anciens et des modernes, où finalement le but, c'est de laisser les citoyens vaquer à leurs occupations commerçantes, et d'avoir un pouvoir exécutif chargé d'arbitrer de manière la plus ferme mais la plus bienveillante possible les problèmes usuels de la société.
Il finit comment?
Ah bah Constant finit, se rallie ensuite.
À
la monarchie.
Il a une carrière. Oui, c'est ça. Voilà, il y a une carrière
jusqu'au
politique.
Jusqu'au bout, une carrière libérale. Oui, il va jusqu'au bout de ses idées, toujours en défendant à peu près le même régime. Mais que ce soit un président, un ensemble comme les directoriaux de chargés d'exécutif, que ce soit un empereur ou un roi, finalement pour lui, ça n'a que peu d'importance. Et là-dessus, il est quand même héritier de Sieyès, d'une certaine façon.
Donc le thème qui courrait dans tout le livre, en refus ou en acceptation, c'est: est-ce que la révolution s'arrête ou ne s'arrête pas?
Oui. Est-ce que la révolution est une transition?
Une transition.
Un moyen, une parenthèse désagréable pour certains, ou un mal nécessaire. Donc on va, à un moment donné, Constant le dit bien, il le dit sous le directoire, il dit on a tellement habitué les citoyens à désobéir qu'on ne sait plus comment les faire obéir. Et donc il se donne pour rôle de clore ce mal nécessaire et
ça, c'est une phrase terrible. La phrase est terrible.
Ah oui, on a trop désobéi. Voilà. Après, c'est intéressant parce que c'est l'obsession aussi de quelqu'un comme Auguste que Comte au 19e, qui va dire, bon, bah, la Révolution française, c'était un moment important, mais il faut arrêter avec la liberté d'expression, il faut arrêter avec l'esprit critique, parce que sinon, on ne pourra rien reconstruire si on n'en termine pas avec l'esprit critique. Et donc, je crois que tout intellectuel de cette époque, et je parle de Sieyès à la fin, et bon, Constant en est l'illustration la plus nette, qui pense la Révolution simplement comme transition, comme mal nécessaire, comme moyen, est amené à se demander comment endiguer finalement l'esprit critique de manière à faire cesser l'impulsion révolutionnaire.
Ce qui va suivre la révolution, c'est quand même le consulat et l'empire, c'est-à-dire la chute de la liberté de la presse, la chute de la création aussi. Hein. Faut pas oublier que sous la révolution, il y avait un théâtre, on disait qu'il y avait un théâtre dans toutes les rues. Voilà. Quand Bonaparte arrive, le théâtre devient un théâtre d'État.
Oui, il parachève, à mon avis, les expérimentations telles que conseillées par Constant et d'autres sous le directoire. À savoir, sous le directoire, comme je le disais tout à l'heure, il y a une élection par an. Ces élections voient par moment la victoire partielle ou relative des monarchistes ou de républicains intransigeants, nostalgiques de Robespierre, ce qu'on appelle les néo-jacobins à la fin du directoire. Et donc, les directoriaux s'aperçoivent que finalement, la marge d'incertitude est trop importante, qu'il faut contrôler l'électorat, contrôler les élections, contrôler la presse, et qu'on ne peut pas terminer la révolution si on ne met pas une grosse dose d'autorité conservatrice dans l'État, et si on ne met pas l'État hors de portée comme une institution autoritaire arbitraire qui va veiller finalement à ce que plus personne ne puisse contester les acquis de la révolution. Et le directoire le tâtonne, l'expérimente, et finalement celui qui parvient à parachever tout ça, c'est Napoléon Bonaparte. L'Empire est le moment culminant de cette logique de terminer, de stopper la révolution. D'ailleurs, Napoléon le dit, lorsqu'il prend le pouvoir, hein, lorsqu'il institue la constitution du consulat, il le dit, voilà, la révolution est terminée, avec moi la révolution se termine. Il n'est que le énième à le dire depuis Lafayette en 1790, mais enfin lui quand même le fait avec une certaine vigueur autoritaire et conservatrice. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose qui s'arrête, mais qui est l'aboutissement logique de tout ce qui se passe pendant le directoire, c'est l'aboutissement logique de la pensée de Constant, de Staël.
Alors ça s'arrête politiquement, mais ça s'arrête aussi au niveau des morales et de l'éthique. On revient à Sieyès dit que les préjugés, c'est quand même quelque chose qu'il faut combattre. Oui. Et si on revient sur Constant, et on va lier Bonaparte, on revient dans une structure extrêmement rigide de la société.
Oui, et en plus une structure où il faut reconstruire des préjugés en quelque sorte, il faut réinstituer des traditions. Lorsque l'empereur Napoléon Ier est tenté par la réinstauration de l'ordre dynastique, alors ça fait rire les gens comme Fouché qui sont machiavéliques, mais ils comprennent l'importance de la réinstauration de l'ordre dynastique. Il s'agit de réinstaurer une tradition, il s'agit de faire perdurer les choses. Et donc tout ce qui était combattu pour des raisons stratégiques, mais aussi par conviction, par Sieyès en 1789, on s'aperçoit à partir du directoire, sous le consulat puis l'Empire, qu'il faut le réinstaurer. Mais c'est toute la réflexion autour, sous le directoire, de l'éducation, à savoir, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On continue à guillotiner les gens, on ne peut pas guillotiner les gens éternellement, on va agir sur les esprits. Et donc on va éduquer les nouvelles générations pour qu'elles aiment l'ordre, pour qu'elles aiment les acquis de la Révolution. Et tout le 19e en France va être une longue réflexion sur la façon de stabiliser l'ordre. Et la 3e République en sera une émanation.
Très curieux, non, après la terreur arrivent ce qu'on appelle les muscadins, les incroyables et les merveilleuses, qui au niveau des mœurs sont des gens extrêmement libérés, mais qui au niveau politique sont des fifs et canailles.
Oui, c'est un mouvement, c'est assez ambigu, je trouve, ce mouvement. C'est un mouvement de réaction face au moralisme robespierriste. Hein. C'est vrai qu'il y a un culte de la vertu et de la morale chez Robespierre, qui a des aspects intéressants, mais enfin, en même temps qui est aussi une gestion très autoritaire de l'esprit public. Et donc, quelque part, il y a un relâchement des mœurs, délibérées pendant quelques temps. Il y a une répression contre les sans-culottes. Hein. Les muscadins sont des jeunes
très réactionnaires,
qui ont matraqué les sans-culottes dans les rues parisiennes. Et donc, on a une sorte comme ça de délire un petit peu immoral qui est perçu en effet comme une libération, mais qui véhicule derrière, bien sûr, potentiellement le retour à un certain ordre moral. Ce sont des jeunes gens très catholiques qui ne rêvent que d'un retour de la monarchie sous une forme ou une autre. Donc là aussi, on est face à une émancipation qui n'est qu'une petite étincelle, avec en arrière-plan quand même une réalité qui est que ce sont des gens qui prônent le retour à l'ancien régime, ou en tout cas à une monarchie constitutionnelle de type 1790-91.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en l'espace de 5 ans, cette révolution va cracher, concevoir, être conçu par des gens extrêmement paradoxaux. C'est-à-dire que Constant n'a rien à voir avec Marat.
Non,
ou avec Sylvain Maréchal, c'est-à-dire ce sont des gens complètement aux antipodes.
Oui, et qui n'ont pas la même culture politique, qui n'ont pas les mêmes ambitions non plus. Avec, je crois quand même, quelques lignes, ce que j'essayais de montrer dans les chapitres du livre, quelques lignes de convergence, c'est-à-dire... Constant est un peu à part. Constant n'est jamais révolutionnaire. Constant, c'est celui qui arrive après la révolution.
Tu vas me dire si tu es d'accord. Moi, je trouve que pour tous... Sauf Constant, ce qu'on va, on va schématiser en disant mettre à bas le trône et l'autel, ça convient pour tout le monde. Mais ça ne convient pas pour Constant.
Constant se veut républicain, quand même, les premières années.
Tu essayes de le sauver.
C'est un jeune républicain ambitieux, arriviste, diraient certains, sous le directoire. Mais c'est quelqu'un qui a aussi une forte conscience de la façon dont on fait obéir les gens après une phase... d'euphorie désorganisatrice et désobéissante. Donc c'est quelqu'un qui a cette capacité de penser machiavélique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on revient à l'ordre. Et finalement, l'alliance avec la religion est une option parmi d'autres pour Constant. Mais ça reste un libéral. Donc on ne peut pas lui ôter non plus cet aspect-là. C'est quelqu'un qui, même s'il pense à la terreur comme une menace possible contre les adversaires de la République, la dénonce très vite et prône un libéralisme bon teint, c'est-à-dire la liberté économique.
C'est le seul qui est au sous-titre de ton livre, c'est quand même de la table rase institutionnelle à la contestation permanente des lois.
Oui, c'est pour ça que je l'ai appelé l'anti-anarchiste.
L'anti-anarchiste, voilà.
Dans ce chapitre, j'ai voulu faire un contraste, un effet de contraste, voilà. Et donc montrer ce que pouvait être quelqu'un qui finalement, d'emblée, avec beaucoup moins d'ambiguïté, prône l'ordre, le retour à l'ordre, la fin de la révolution, avec des instruments très subtils, très, très intellectuellement bien pensés, comme cette idée d'un État qui doit être à l'abri du résultat des élections, ce qui est un peu fou quand on y pense. Il dit voilà, l'État républicain doit être neutre, quel que soit le résultat des élections, l'État n'a pas à louvoyer.
Le terme est bon, neutre. Il y a fait même une recherche d'une neutralité.
Qui est une fausse neutralité, parce que c'est la République. Ouais. Donc, mais l'État, quel que soit le résultat, ne doit pas se plier à la volonté de la majorité à un moment donné. Donc on invente un système électif, Constant invente un système électif où il y a des élections tous les ans sous le directoire, mais Constant dit attention, le résultat des élections c'est bien, mais c'est moins important que la permanence des institutions républicaines. Et donc on invente quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire des élections qui tournent à vide et qui finalement laissent hors de portée l'essentiel, c'est-à-dire le régime. Le régime n'est pas touché par les élections. Donc vous pouvez voter tant que vous voulez, l'État et les institutions resteront inchangés.
Ce qui est fascinant, il faut quand même le dire aussi, c'est que, outre Seyès, qui a quand même de la bouteille, Saint-Just doit avoir 24 ans. Ouais. Et Constant ne doit pas être beaucoup bien plus vieux aussi.
Oui, et puis Robespierre à la trentaine. Voilà. Ce sont des... Le plus vieux, c'est Marat, qui a la quarantaine à la fin. Condorcet est déjà un savant reconnu avant la Révolution française. Mais la Révolution française est une affaire de jeunes, de trentenaires, à peu près. Et puis, Saint-Just est quand même l'un des plus jeunes. Mais non, c'est une affaire de jeunes. La Révolution, c'est une épopée de jeunesse dans une large mesure. On a là des gens qui se retrouvent à gérer un événement ahurissant à un âge par rapport au canon aujourd'hui de ce que peuvent être les élites, entre guillemets, politiques, à un âge assez, assez jeune. Et je crois que c'est intéressant. Mais les bolcheviks étaient jeunes également. Et je crois que c'est ce qui peut expliquer que on ait des révolutions, et puis des révolutions qui peuvent aussi fonctionner plus ou moins bien selon que ces jeunes perpétuent ou pas l'idéal révolutionnaire ou se retrouvent ensuite dans un jeu conservateur.
Alors, à faire pâlir ce pauvre Benjamin Constant, des gens comme Saint-Just, 24 ans, je réitère, culture de l'antique, c'est-à-dire culture romaine et culture grecque, propulse des choses à l'image de Sylvain Maréchal qui ont dû faire trembler Constant, c'est-à-dire le phénomène du tyrannicide, c'est-à-dire on tue celui qui a le pouvoir. Oui. Là, on va en parler parce que c'est en même temps c'est fascinant, mais c'est extrêmement dangereux aussi.
Oui. La notion de tyrannicide est ancienne. C'est une notion issue de l'Antiquité grecque. Tuer le tyran, c'est le geste noble pour le démocrate athénien. Donc il y a comme ça toute une mythologie tyrannicide et c'est repris par certaines lois grecques qui, à un moment donné, font promettre aux citoyens de tuer tout tyran qui se dresserait contre la démocratie. C'est repris par un philosophe comme Cicéron qui prônait la légitime défense du citoyen contre le tyran. Mais Cicéron avait une idée derrière la tête, c'est c'était notamment de légitimer le meurtre de César par Brutus. Et donc, dépeindre César comme tyran permettait de faire de Brutus un héros et servait les intérêts politiques de la carrière de Cicéron, qui avait pris l'habitude de traiter tous ses ennemis de tyran de manière à justifier éventuellement leur meurtre ou leur condamnation à mort. Donc, on a très tôt une ambivalence de la notion, c'est-à-dire que c'est à la fois la résistance au tyran, qui est la créature maudite de la philosophie et de la politique de l'antiquité gréco-romaine, et en même temps on a quand même quelque part la justification du meurtre, du meurtre politique. Il faut appeler un chat.
En lisant ça, moi je suis arrivé à un questionnement philosophique. À partir de quel moment détermine-t-on que quelqu'un est un tyran? Si on regarde notre histoire récente à nous, le dernier attentat réel qu'il y a eu en France, ça a été contre le général de Gaulle, Bastien Thiry, au petit Clamart. Bon, est-ce que ça, c'est un acte de tyrannicide ou pas?
La question de la subjectivité a été longtemps problématique.
Par un être d'extrême droite, encore à la...
C'est très délicat. Alors, la notion de tyrannicide a beaucoup été étayée par les théologiens, comme Thomas d'Aquin, par exemple. Et alors, la réponse était simple, c'est que si le tyrannicide réussit, c'est que Dieu l'a voulu, et donc vous aviez affaire à un vrai tyran.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître.
Pour un croyant, la résistance au tyran va de soi, puisqu'on est impulsé par quelque chose qui nous transcende. Pendant les guerres de religion, le tyran, c'était le roi de la religion adverse. Donc, le roi protestant était un tyran pour les catholiques, et vice-versa. Pendant la Révolution française, c'était tout roi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, ça n'était plus le mauvais roi, c'était tout roi pour Saint-Justin. On ne peut pas régner innocemment, la fameuse phrase très connue, mais que j'ai reprise dans le livre. Ça veut dire qu'à un moment donné, on franchit un pas, on simplifie un peu les choses, on enlève Dieu, puisque ça te tracasse, on enlève Dieu de l'équation, et donc on se retrouve avec quelque chose de plus simple, c'est que tout roi est un... Tout, et on retrouve un peu la logique de l'Antiquité grecque, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas démocrate, en leur sens à eux, est forcément tyrannique. Et donc le tyran, c'est le chef de l'exécutif.
D'accord.
À partir de là. Qui va essayer de s'approprier l'exécutif.
De Gaulle,
tyran, du point de vue de Saint-Just, de Gaulle, monarque ou bonapartiste, néo-bonapartiste républicain, aurait été qualifié de tyran sans problème. Hein. Pour Saint-Just, je pense que les choses
auraient été... Petite parenthèse, les grands attentats qui ont été faits contre Bonaparte, c'est quand même des royalistes qui les ont faits. Hein.
Oui, on a accusé les néo-jacobins.
Oui, mais c'est quand même les royalistes qui les ont faits. Il faut bien... Voilà.
Mais le tyrannicide est assez trans-idéologique ou trans-régime. On a ça chez les catholiques, on a ça dans l'Antiquité, chez les révolutionnaires. Finalement, dès que quelqu'un ne vous plaît pas à la tête de l'État, on peut
le taxer. Mais si on regarde bien dans une perversion dialectique, notre Saint-Just qui est pro-tyrannicide, il donne du grain à moudre à ceux qui vont demander la chute de Robespierre, l'exécution de Robespierre.
Bien sûr, mais la chute de Robespierre est vécue comme la chute du tyran.
Du tyran, bien sûr.
De quelqu'un qui, on fait courir des bruits comme quoi il voulait être roi, il voulait se mettre une couronne sur la tête, etc. Donc le tyran, ça devient Robespierre. Sous le Directoire, lorsque on veut critiquer l'extrême gauche, on parle du tyran, c'est Robespierre. Mais bon, la logique tyrannicide, c'est aussi plus largement, et c'est ce que j'essaie montré avec le chapitre sur Sylvain Maréchal, c'est aussi plus largement la haine de l'appropriation du pouvoir. Donc on a quelque chose qui va au-delà. Et le tyrannicide, c'est aussi la menace permanente qu'on fait peser sur les détenteurs du pouvoir. Et même si on ne rêve pas de meurtre politique, et je crois qu'on peut raisonnablement écarter cette hypothèse, hein, le meurtre politique, ça appartient à une autre époque, mais le tyrannicide dans un sens symbolique, c'est aussi le contrôle, la surveillance et la possibilité de faire des choix en permanence, les détenteurs du pouvoir. Hein, c'est la faire peur à ceux qui ont le pouvoir. Je crois que c'est la grande leçon de Sylvain Maréchal, ce que je dis à la fin du chapitre sur cet auteur, c'est qu'il faut faire peur à ceux qui veulent le pouvoir.
On va revenir sur Sylvain Maréchal, mais puisque tu es là, tu es pris au piège. Je crois savoir que tu as quelques accointances avec le mouvement libertaire. Il y a des rires, hein, faut faire attention. Est-ce que, en tant qu'historien et en tant que libertaire, tu peux entièrement condamner ce qu'a été un Robespierre, par exemple ?
Robespierre est une figure intéressante du point de vue de son intransigeance politique. Il incarne quelque chose de tout à fait fascinant. Je crois que même les ennemis de Robespierre, même l'historiographie de droite de la Révolution française n'a jamais pu échapper à la fascination pour Robespierre, qui incarne quand même le révolutionnaire intransigeant, l'incorruptible, voilà. Donc, le culte de la vertu. Maintenant, c'est un autoritaire. Robespierre, c'est un autoritaire. C'est quelqu'un qui pense, comme beaucoup de ses contemporains, qu'on peut changer par le haut, par la force, un peuple tout entier, un ensemble de citoyens, par une constitution ou par suffisamment de répression. Et c'est quelqu'un qui se pense incarnation d'une certaine parole populaire. C'est aussi Robespierre l'incarnation de cette folie qui consiste à se faire ventriloque du peuple. D'accord. Voilà, je suis représentant du peuple et je suis... Donc, aussi fascinant qu'il soit, Robespierre incarne finalement ce qu'on trouve dans le contrat social de Rousseau, façon, c'est-à-dire le fait de pouvoir forcer les gens à être libres. Et ça, c'est inadmissible pour un libertaire. Dans le contrat social de Rousseau, dont les Jacobins s'inspiraient lointainement, hein, bien entendu, il y a des choses formidables, fascinantes, mais il y a cette idée qu'on peut forcer, notamment la minorité, à être libre. Et je crois que pour tout libertaire, ça, c'est inacceptable.
Donc, oui, mais tu tires quand même un Saint-Just du lot, quand même, dans ton livre, qui a quand même épousé jusqu'au bout l'action de Robespierre.
Oui, parce que Saint-Just, par ses fulgurances, me semble aller à un pas de l'anarchisme. Mais le dernier pas est le plus dur à franchir, et Saint-Just ne l'a pas franchi, il ne l'aurait sans doute jamais franchi. Mais lorsqu'il dit « on ne règne pas innocemment », il est tout près de dire qu'on ne gouverne pas innocemment, qu'on n'a pas le pouvoir innocemment. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est cette forme de simplification. On tire un trait sur les subtilités de la philosophie politique. On ne va pas dire qu'il y a une bonne et une mauvaise monarchie, une aristocratie, non. Il y a un seul régime qui est valable, la République, tout le reste c'est la non-République, et notamment la monarchie, tout ça est à détruire, à écarter d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a comme un effet d'entonnoir. À un moment donné, la pensée politique trouve chez Saint-Just le maximum de proto-anarchisme qu'elle pouvait toucher dans la parole de quelqu'un qui était au pouvoir à ce moment-là. Parce que je pense que chez Marat, chez Sylvain Maréchal, on va un petit peu plus loin quand même. On franchit d'une certaine façon le cap. Mais Saint-Just est allé jusqu'au bout et ça me semble intéressant. Mais on ne peut pas le qualifier d'anarchiste ni de proto-anarchiste. Hein. Saint-Just, je le mets quand même un petit peu à part.
Avant d'approfondir tout ça, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement, parce qu'il y avait un terme moi qui m'intéressait énormément, c'était le mot fatigue. Est-ce que chez Robespierre, dans les derniers mois, dernière année, il n'y a pas tout simplement ce qu'on pourrait appeler un pétage de plomb? C'est-à-dire qu'il ne sait plus. C'est-à-dire le monstre est là, il a joué avec le monstre, il ne sait plus quoi en faire.
Il y a une forme, je pense, de fatigue, oui. Ouais. Fatigue nerveuse, fatigue morale. C'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. C'est quelqu'un qui a participé de manière intensive pendant plusieurs années à l'épisode révolutionnaire. C'est quelqu'un qui n'est pas si dominant qu'on le croit. Hein, au comité de salut public, on a beaucoup fait de Robespierre, mais ça, c'est une historiographie anti-robespierriste. Quelqu'un qui aurait tout manigancé, tout, alors qu'il est parfois en minorité. Il a parfois des difficultés à se faire entendre. Et c'est quelqu'un qui ne voit pas venir l'événement qui va le faire chuter, bien entendu. Il ne le voit pas, il n'en a pas conscience. Et donc, c'est quelqu'un qui est simplement immergé dans l'événement, qui a pendant quelques mois en pointillé une prise forte sur les événements, mais qui n'est qu'un parmi d'autres. Il ne faut pas non plus surestimer la capacité de Robespierre à tout gouverner, à tout agencer, à tout articuler. Notamment parce que la terreur est pour beaucoup, il ne s'agit pas de le dédouaner, mais c'est pour beaucoup une machinerie administrative qui s'auto-nourrit, qui s'auto-accomplit. Et au cœur même de la terreur, au comité de salut public, on continue à produire des rapports sur l'éducation, des choses très, très bienveillantes, très positives. Et donc il y a aussi un détachement de la réalité des choses. Il y a aussi un moment donné, chez ces gens-là et chez Robespierre, l'incapacité à penser la globalité de l'événement. Et c'est normal, ils ne voient pas la totalité des événements.
Il y a trois pages dans ce très 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 beau livre de Victor Hugo, 93. Oui.
Très beau livre, à lire absolument.
Il y a trois ou quatre pages, quasiment sans ponctuation, sur tout ce qu'a réalisé la Convention.
Oui.
Je ne sais pas si tu as souvenance.
Oui, c'est le sommet de l'histoire humaine.
Bien sûr.
Je reprends un peu près.
Magnifique. Effectivement, il y a ce Robespierre avec l'être suprême et la terreur, mais il y a tout ce qu'a réalisé la Convention. Oui. C'est absolument superbe.
Bah, parce qu'une révolution, on peut, bien entendu, pour mille aspects, critiquer la Révolution française, révolution bourgeoise, de propriétaires, etc., révolution par le haut, relativement aveugle au mouvement populaire, mais il est vrai qu'à un moment donné, la Convention représente quelque chose de... auquel tout libertaire doit s'intéresser. Merci. C'est le moment où on casse l'ancien pour produire du neuf, dans une certaine mesure. Et donc, il y a forcément des choses à apprendre.
Lire 93, magnifique.
Oui, oui, tout à fait.
Erwan, nous sommes en direct au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Et merci Monique, toujours. L'anarchiste sous la Révolution française, c'est un livre très riche qui amène plein de réflexions. Avant qu'on dérive un peu, il y a une très belle réplique dans Le diable et le bon Dieu de Jean-Paul Sartre. À un moment donné, il lui dit, il y a un personnage qui dit à l'autre, il dit, moi je suis un pauvre. Et l'autre lui répond, tu n'es pas un pauvre, tu es un chef. Et ça peut s'appliquer à la Révolution française. C'est-à-dire qu'où il y a une masse sans culottide, d'illettrés, et on conserve quand même une fonction pyramidale avec les chefs par-dessus. Est-ce que c'est inéductable ou pas? C'est peut-être un des gros problèmes de tout mouvement.
Avec, alors inéluctable, je ne sais pas, mais avec des gens qui l'assument plus ou moins. On parlait de Robespierre tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pense incarner le bas. Donc, et qui ne se vit pas comme un chef, en tout cas au plein sens du terme. C'est quelqu'un qui pense se faire, je pense avec des convictions, le porte-parole, le représentant, en tout cas pendant un temps, même s'il l'instrumentalise, du mouvement des sans-culottes parisiens. Donc, d'autres l'assument. On a chez Sieyès, malgré tous les aspects que j'essaie de mettre en évidence dans le livre et qui me semblent intéressants du point de vue de l'anarchisme, on a chez Sieyès quand même une théorie du système représentatif où, grosso modo, comme chez Madison aux États-Unis, ce sont les élites qui doivent gouverner. Donc on s'assume comme pleinement élitiste. Et il n'est pas question de faire une révolution populaire par le bas ou quoi que ce soit.
Je trouve que ta position par rapport à Robespierre est très intéressante. Elle est très, très hésitante, elle est beaucoup plus hésitante que ce que je pensais.
Je me suis aperçu que souvent les anti-Robespierristes l'étaient pour de mauvaises raisons. Oui. Donc, lorsqu'on n'aime pas Robespierre, et d'une certaine façon, moi je ne l'aime pas non plus, mais il faut prendre soin d'expliquer pourquoi on ne l'aime pas et pour quelles raisons. Parce que, et on a quand même affaire à quelqu'un qui, à un moment donné, est au cœur d'un événement, comme tu le disais, incertain. on navigue à vue, on réinvente le vocabulaire politique, on est dans des situations extrêmement violentes, dangereuses. En 1792, c'est quelqu'un qui est porté au cœur de l'histoire par cette seconde révolution qui instaure la République. Et donc, il y a forcément une part de grandeur dans ce type de trajectoire. Quand bien même on puisse le détester, un anarchiste a de bonnes raisons de détester Robespierre.
Mais nous sommes au micro de Radio Liberté, je ne déteste pas Robespierre. Voilà. Donc, mais par contre, il y a un personnage que, beaucoup moins connu, hein, c'est Sylvain Maréchal. J'ai fait autour de moi une espèce de questionnaire, enfin, quand personne ne connaît Sylvain Maréchal, et qui est pourtant, tu commences ton chapitre sur Sylvain Maréchal, c'est peut-être le seul qui peut se réclamer vraiment de l'anarchie.
Oui, c'est sans doute un vrai anarchiste, un vrai personnage qui énonce un certain nombre d'idées qui sont parfaitement en phase avec des éléments de la pensée anarchiste du 19e et du 20e siècle. Donc c'est quelqu'un qui prône de façon très simple, l'abolition de la séparation entre gouvernant et gouverné. Donc on a là l'idée toute simple et relativement inédite sous la Révolution française, voire même jusque-là, même si on pourrait trouver d'autres exemples à travers l'histoire, de quelqu'un qui prône l'abolition de l'État, qui demande le retour à des communautés. Il est pour le droit de sécession, il dit tout individu devrait pouvoir quitter la société dans laquelle il vit.
S'il n'est pas d'accord, il sort.
Voilà, s'il n'est pas d'accord, il s'en va. Alors, ça pose quelques problèmes, je pense, parce que ça veut dire quelque part qu'on homogénéise aussi la communauté. Mais enfin, voilà, celui qui veut partir est libre de partir, puisqu'il est là par contrat.
C'est très proche des théories de Fourier sur les phénomènes affinitaires.
Oui, c'est ça, il y a cette idée. Alors, Maréchal dit, voilà, autour de l'âge de la majorité, il faut que, solennellement, on se prononce pour dire si on veut rester ou si on veut pas rester, de manière à ce que si on reste, l'obéissance, et encore on doit en discuter les termes, soit volontaire, et si on veut partir, on parte. Et il dit, voilà, toute société digne de ce nom doit laisser sur son territoire des zones où pourront s'implanter les individus qui veulent vivre selon des lois, selon des normes qui seront les leurs, et non pas celles de la société.
Il vient de où, ce Sylvain Maréchal
Alors, c'est un poète, c'est un écrivain à succès, c'est quelqu'un qui est journaliste de profession au moment où commence la Révolution française, et c'est quelqu'un qui produit des pièces de théâtre à succès. Pendant la Révolution, il produit une pièce de théâtre, notamment au plus fort des grandes heures de la Convention, justement, où c'est une histoire assez marrante, où tous les rois d'Europe sont capturés, emprisonnés sur une île, et commencent à s'entretuer, puis finalement une éruption volcanique vient les engloutir tous sous les rires et les colibés des sans-culottes qui viennent massivement assister à ce spectacle. Et en fait, c'est cette pièce de théâtre qu'on peut voir sous un jour humoristique, c'est un élément qui ne cesse de traverser la pensée de Sylvain Maréchal, à savoir comment on se débarrasse du chef, comment on se débarrasse de l'autorité. Donc il invente aussi un peuple qui aurait vécu sur les pentes du Vésuve dans l'Antiquité, et où dès que quelqu'un voulait devenir chef, on le jetait dans le cratère du volcan pour s'en débarrasser. Donc ce sont des métaphores pour tout un ensemble de techniques qui permettrait à un moment donné d'éviter un peu ce qu'on a chez Pierre Clastres. Moi, ça me fait penser à Clastres, c'est-à-dire comment une société organise sa propre résistance à l'émergence des petits chefs. Comment, à un moment donné, on est capable de s'apercevoir qu'un chef est en train d'apparaître et comment on se débarrasse de lui. Et il dit même, voilà, il imagine dans un de ses premiers textes un roi qui dirait à ses sujets, mes amis, je ne sers à rien, je m'en vais. Voilà, être roi, c'est parfois bien, parfois mal, il y a des bons et des mauvais rois, c'est trop arbitraire, vous débrouillez très bien, vous êtes grand sans moi, et donc je vous restitue le pouvoir. Donc là, c'est le chef lui-même qui...
Donc il rejoint Saint-Just, il rejoint Saint-Just sur le pouvoir, là.
Oui, il va même plus loin.
Il va même plus loin,
puisque Saint-Just garde la République comme système idéal en tête. Il y a quand même toujours ce point bloquant chez Saint-Just, qui est que tout régime doit être aboli sauf la République. Sylvain Maréchal va plus loin. Il dit que toute forme de chefferie, d'institution, toute forme de pouvoir est à abolir, avec quand même une nuance, parce que je ne veux pas enjoliver à outrance Sylvain Maréchal, c'est qu'il prône quelque chose qui existait à l'époque dans les faits, la constitution de communautés qui sont quand même plutôt des communautés patriarcales, avec l'idée d'un patriarche. Alors la propriété est distribuée, les tâches sont distribuées, il y a une certaine velléité égalitariste, mais il y a quand même l'idée que le père ou le grand-père, le patriarche, va continuer à administrer les choses. Donc il rencontre lui aussi des limites, c'est un homme de son temps.
Bon. Quand ces gens-là veulent mettre à mal le trône et l'autel, ils sont quand même le peuple passe par ce qu'on appelle l'aliénation. C'est-à-dire que c'est pas si facile de se débarrasser du côté patriarcal. C'est pas si facile de considérer la femme l'égale de l'homme. C'est-à-dire qu'on vit avec un socle qui est vraiment aux antithèses de ce que ces gens-là vont. Parce que par exemple, Condorcet, Sieyès, Marat, l'esclavage, ils sont contre. Ils prennent des positions, Marat prend des positions sur l'esclavage extrêmement poussées, par exemple.
Condorcet
aussi, le droit de vote des femmes, les femmes.
Alors, il y a
la peine de mort aussi.
Là, on rentre sur des considérations qui, pour la plupart des acteurs de l'époque, c'est vrai, sont assez loin de leur horizon. Les femmes en politique, par exemple, Sieyès considérait que le fait qu'elle n'ait pas le droit de vote, qu'elle ne participe pas, c'était un préjugé. Il disait, c'est un préjugé, c'est-à-dire qu'on hérite ça des siècles passés. Sa conception du préjugé, c'est une tradition, c'est une erreur sédimentée par les siècles. C'est quelque chose qu'on a pris l'habitude d'accepter comme naturel, alors que, finalement, ça n'est qu'une convention humaine qu'on a fini par voir comme dans l'ordre des choses, et donc toute sa pensée, en 1789, est orientée sur la démolition des préjugés. Et il dit, le fait qu'on écarte les femmes de la politique, il y a bien eu des reines en Angleterre, c'est donc bien un préjugé. Mais il est trop tôt pour s'y attaquer. Donc voilà, là, il est toujours le progressiste, le fait d'écarter les femmes de la politique, c'est un préjugé, le conservateur, chaque chose en son temps, il ne faut pas bouleverser la société très vite. Mais ça veut dire trop vite. Mais ça veut dire qu'il considère quand même que l'exclusion des femmes de la politique est une convention sociale. Ce n'est pas une chose naturelle, ce n'est pas une chose biologique, ce n'est pas... Il est déjà sur l'idée que c'est une convention, c'est une erreur, c'est quelque chose qui aura vocation à être corrigé. Simplement, lui considère qu'il y a déjà fort à faire, puisque lui a une révolution à mener. Alors, il ne va pas plus loin. Là où Condorcet est quand même beaucoup plus ouvert. Condorcet est beaucoup plus ouvert à l'égalité homme-femme à cette époque et à l'abolition de l'esclavage.
L'esclavage, ils vont quand même très loin. Quand on sait le chemin que ça va faire plus tard, c'est-à-dire abolition, rétablissement, il faut attendre les milieux du 19e pour qu'il y ait vraiment un mouvement, ils vont très loin. Marat va très loin sur le sujet.
Oui, c'est un... Ce sont des gens qui, ce que j'ai essayé de dire dans le livre, qui ouvrent la boîte de Pandore. Donc, ils disent au début de la Révolution, on va constitutionnaliser la monarchie, on va abolir les privilèges, on va abolir le système fiscal et certaines hiérarchies d'Ancien Régime, l'aristocratie, mais on n'ira pas plus loin. Mais en fait, c'est impossible, puisqu'ils libèrent l'esprit critique, ils libèrent la parole critique et la capacité à penser contre les préjugés. Et du coup, même ceux qui, comme Barnave, disent très vite, attention, n'allons pas plus loin, parce que si on va plus loin, on va attaquer la propriété et la royauté, sont débordés par des gens qui finalement savent additionner 1 plus 1 et s'aperçoivent que après les préjugés tels que l'aristocratie ou les privilèges de l'Ancien Régime, il y en a d'autres à abolir. Et donc, je crois que la grande force de la Révolution, et ce qui peut la rattacher d'une certaine façon à l'anarchisme, c'est qu'on finit par jeter tous les préjugés par-dessus bord. Jusqu'à Sylvain Maréchal qui dit, c'est l'État. Voilà, il arrive jusqu'au bout, il dit finalement, et si le plus grand préjugé, c'était pas, il le dit à sa manière, si le plus grand préjugé, c'était pas l'État. Et au 19e siècle, les anarchistes reprennent cette idée. Ils vont dire, des préjugés qui ont été oubliés, c'est quoi? C'est la propriété et l'État, fondamentalement, même si la propriété est déjà contestée pendant la Révolution.
Et tu sais aussi bien que ce qu'on reproche à Sylvain Maréchal, c'est quand même quelque chose, c'est des choses qui sont au niveau des préjugés très graves, par exemple, le patriarcat, le droit au sol. Il vit quand même dans une société qui est quand même celle, au niveau mental, qui serait celle de Greuze, ou même
Parce que c'est, je crois que, je le dis en introduction, il n'y a pas d'anarchiste ou personne n'est complet pendant la Révolution française. On n'arrive pas à en trouver un qui additionnerait la totalité des codes ou des éléments ou des données progressistes, libertaires, anti-autoritaires que nous, au 21e siècle, on peut additionner. Donc il y a toujours un endroit où ça coince. Mais on pourrait dire la même chose chez Babeuf. Babeuf, grand copain de Sylvain Maréchal, veut abolir la propriété, c'est très bien, mais il ne veut pas abolir l'État. C'est un autoritaire, Babeuf. Sylvain Maréchal, c'est un libertaire, il veut abolir la distinction entre gouvernant et gouverné, mais il a un problème avec les femmes. Il est patriarcal et misogyne. Donc on n'arrive pas à trouver le super anarchiste complet avec tout l'éventail, tout le catalogue qui est le nôtre au 21e siècle. Mais ça, c'est parce que là, pour le coup, on ne peut pas leur demander, tu as raison, plus ou trop par rapport à leur époque.
Et je réitère, il n'y a pas de modèle.
Non.
Et tout a été très vite. En fin de compte, le phénomène de l'athéisme s'est préparé 20 ans ou 30 ans avant.
Oui, oui.
C'est progressif, oui. Mais vraiment, arriver à l'athéisme, c'est quand même quelque chose...
Oui, parce qu'on fait... On démolit les églises, hein, quand même. Donc on est dans un registre assez virulent. Mais effectivement, et quelqu'un comme Maréchal qui veut abolir l'État passe pour un cinglé. Puis il n'est pas du tout pris au sérieux, y compris par les révolutionnaires ensuite qui s'inspireront de Babeuf. Sylvain Maréchal, c'est le doux poète un peu halluciné, un peu moqué, ridicule, parce qu'il est peut-être allé trop loin, d'ailleurs trop vite sur cette question de l'État. Il n'est pas pris au sérieux pendant le Directoire.
Ce qui différencie un Benjamin Constant de certains, comme Marat ou Sylvain Maréchal, est-ce qu'il y avait est-ce que Benjamin Constant a une notion de l'économie ou pas?
Est-ce que tout ça est hors
économie,
non,
ou pas?
Non, ce sont quand même des penseurs, notamment Sieyès, Condorcet, dans une certaine mesure. Ce sont des penseurs. Sieyès a été économiste dans sa jeunesse. Il a énormément écrit de manuscrits d'économie qui n'ont jamais été publiés. Il dialogue beaucoup avec les physiocrates. Il dialogue beaucoup avec Adam Smith. Et là, une pensée économique qui est quand même en arrière-plan de sa pensée politique, qui est une pensée de la division des tâches, où les citoyens, c'est-à-dire la bourgeoisie commerçante, doivent pouvoir vaquer à leurs occupations pendant que l'État se charge de sa mission à lui. Ainsi, Sieyès vous dit, pour les lettres, il y a les facteurs, pour construire une maison, il y a les maçons, pour la politique, il y a les représentants. Et donc, il imagine un système de division d'État généralisé dont le substrat est largement économique. Donc, il y a une pensée économique sous-jacente, même si ce ne sont pas des penseurs économiques au sens marxiste du terme, ce sont d'abord des constitutionnalistes. C'est pour ça que souvent l'économie est un peu décevante chez ces auteurs, ou un angle mort, parce que ce sont des gens qui pensent encore, ils n'ont pas lu Marx, ils pensent encore que c'est par la Constitution qu'on change la société, puis par l'éducation ensuite, mais ils n'ont pas cette idée de substrat économique, qui d'ailleurs est contestable dans une certaine mesure à mes yeux, mais ils n'ont pas cette idée d'infrastructure, comme l'auront ensuite les marxistes. Donc on change une constitution, c'est-à-dire, si je devais forcer le trait, on réécrit un bout de papier, et normalement tout change. Alors bien sûr, c'est la grande illusion constitutionnaliste de la Révolution française.
Ben Erwan, on a fait un grand voyage là, hein. Voilà. Alors, je rappelle tout ça de la table rase institutionnelle, la contestation permanente des lois, l'anarchisme sous la Révolution française, Erwan Sommerer, l'édition du Monde Libertaire. Et la couverture est très belle, je réitère. Et il faut le lire, il y a plein de choses à se...
Merci. Voilà. Et merci pour ton invitation, merci beaucoup.
La réaction thermidorienne, édition La Fabrique, Albert Mathiès. C'est bien Mathiès ou pas?
Oui, il faut lire Mathieu.
C'est bien. Hein.
Et il faut lire Guérin, il faut lire tous les historiens.
Et
de la Révolution
pour
française.
Ce qui est de ta part, tu vas me lire le Peter West de Marassade. Voilà. On est bien sur Radio Libertaire. Je vous rappelle qu'on se retrouve le lundi 10.
On se retrouve lundi 19 en compagnie de Patrick de Haas. Pour le cinéma absolu, avant-garde 1920-1930. Sur Ondes de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Eh bien oui, c'est y compris celle, bien sûr, de Patrick de Haas sur Radio Libertaire 89.4.
Cette tristesse diluvienne, ces nuages noirs d'une histoire ancienne. Laisse-moi la foi, cette blessure vaine, cette peur qui n'est pas la tienne. Laisse-les tonner, couler, car après l'orage, les routes fument. On dirait comme une amertume qui s'évapore là dans l'espace. Chaque chose est à sa place. Regarde-moi en transparence. Après la pluie, quel beau silence. En dessous des avions qui passent. Chaque chose est à sa place. Vider la mémoire de cette colère que tu traînes. Mauvais nénuphar, arracher la graine.
là ce soir, cette serrure pleine, cette peur de me décevoir. Laisse-les claquer, couler, car après l'orage, les routes fument. On dirait comme une amertume qui s'évapore là dans l'espace. Chaque chose est à sa place. Regarde-moi en transparence. Après la pluie, quel beau silence. En dessous des avions qui passent, chaque chose est à sa place. Chaque chose est à sa place. Chaque chose est à sa place. Regarde-moi en transparence. Après la pluie, quel beau silence. En dessous des avions qui passent, chaque chose est à sa place. Regarde-moi en transparence. Après la pluie, quel beau silence. En dessous des avions qui passent, chaque chose est à sa place.
Sirotant mon vin, tombé de zénith en nadir, moi qui me prétends écrivain, eh bien ce soir, j'ai rien à dire. Je jette une pièce à la patronne, et puis j'attrape ma veste en cuir. Un client fait « Bonne nuit, bossonne ». Je réponds rien, j'ai rien à dire. Et je dérive sur les trottoirs, les réverbères ont d'affreux rires. C'est fou ce que la nuit devient noire. Putain, quand on n'a rien à dire. Ce n'est pas à coup de silence que l'on se bâtit son empire. Tels sont les mots de ma conscience. Elle parle, et moi j'ai rien à dire. Comme un violeur prend position, je sors mon stylo pour écrire. Mais on ne viole pas l'inspiration. Non, rien à faire, j'ai rien à dire. Les rues défilent et j'accélère. Je songe à me reconvertir. C'est navrant, mais de quoi j'ai l'air? Moi, l'auteur qui n'a rien à dire. Et j'entends les étoiles qui causent. La poésie doit me maudire. Tant de sujets, de nobles causes. Et moi, moi qui n'ai rien à dire. Je croise des feux, des McDonald's. Cette nuit va-t-elle enfin finir? Et je songe à Scott Fitzgerald. Bordel, pourquoi j'ai rien à dire? Et je cours à travers la ville. Je cours pour m'étourdir. Pour oublier l'état servile de celui qui n'a rien à dire. Oui, je cours à travers la ville. Je cours pour m'engloutir. Qu'elles sont cruelles et qu'elles sont viles, ces nuits où l'on n'a rien à dire. Ces nuits où l'on n'a rien à dire.
Fils du vent des gorges du Hogar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. Tout commence d'abord, tout balayé, par le vent sablé, c'est propre et sans papier. Les darbouka clac 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 à chaque pas. Des chevauchées folles, des fantasia, SLM et je t'emmène, alléluia. Je suis griot du village, je m'appelle contaminé. Fils du vent, des gorges du hogar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. La de gare du Nord à Saint-Lazare, j'ai tout balayé, c'est propre et sans papier. Les darbouka clac clac qui clac quand je suis chez moi. Les voisins s'affolent du balcon parabole, SLM et on m'emmène, alléluia. On m'a balayé du quartier, c'est propre et sans papier. Fils du vent des portes du Qatar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. Tout commence dans les palais dorés. J'ai tout balayé, c'est propre et sans papier. Les darbouka clac clac qui clac quand le chèque est là. Les chevauchées folles de 4x4 jusqu'à Dubaï, SLM et on m'emmène, alléluia. Faire le griot du village, c'est top, tout est payé. Fils du vent de Georges et du dollar, le chanter si fort, ce n'est pas le hasard. Tout commence, G.I.s. Au chômage, hi, hi ho, je cherche du boulot. Mon bazooka tape, tape, qui tape, tape sur tous les toits. De Bagdad Pipeline jusqu'aux USA, SLM et on m'emmène, alléluia. Balayer le monde entier, contrôle ethnique, ok. Fils du vent des gorges du Hogar, fils du vent de Georges et du dollar, fils du vent des gorges du Hogar, fils du vent de Georges et du dollar.
Quand le rêve s'écoule dans un sablier brisé. studio, débranche le téléphone et pleure dans un lit une place. De toute manière, tout va bien. Un pour deux, nous voudrions un café pour deux. Nous voudrions une salade pour deux. Nous voudrions une glace pour deux. Oh, un pour deux, c'est tellement mieux que 10 pour un. C'est toujours mieux que rien.
Dans la nuit, au fond du puits, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui meurt. Es-tu Claudel, Camille ou Paul? Des voix m'appellent, des voix m'épaulent. Une guerre de trop, regret de Chine. Es-tu Malraux? Es-tu l'auteur de Terre des hommes? Artaud qui meurt seul sans opium.
Merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là de ci et de au mur la vie. Merci la vie, merci la main que j'ai trouvée tendue au fond d'un puits, merci. Merci aussi aux larmes, aux cris, encore merci aux âmes qui crient dans la nuit. Merci surtout les jours où t'es parti. Merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là de ci et de au mur la vie. Merci la vie. Merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là de ci et de au mur la vie. Merci l'amour, merci les cris et puis les coups de sang avec ou sans amant pendu, les bras au cou ou bien perdu à bout pendu au clou. Tant pis, on s'est pas vu, pas pris. Mais c'est la vie, merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là de ci et de au mur la vie. Merci la vie. Merci la vie, même si parfois la vie est dure, j'endure, j'adore la vie. Merci la vie, merci la vie, même si j'ai vu de là de ci et de au mur la vie. Merci les vies que j'ai croisées, que je crois j'ai parfois brisées. Souvent la vie se joue sur un baiser, un coup de dé ou dans le dos un coup d'épée. Les gens qui pleurent, les gens qui rient, je crois que c'est la vie. Merci aussi les si, les sans, s'il était là je serais pas.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bon, après la voix charmeuse de Monique, Serge au micro, avec à mes côtés Nicolas comme d'habitude, et puis notre invité Jacques Desjans que je vais présenter très rapidement, mais avant, Monique va nous lire avec sa belle voix une motion qui a été adoptée très récemment au Congrès de la Fédération anarchiste, qui est une relative introduction d'ailleurs au contenu du livre, même si c'est sûr qu'un des aspects qui sont traités dans le livre, mais j'en parlerai ensuite. Monique, à toi la parole.
Ni capitalisme vert, ni nucléaire. À cause notamment de l'agro-industrie et des pesticides, la faune sauvage disparaît de façon plus ou moins importante, parfois même irrémédiablement. Les sols s'appauvrissent. La pollution s'accentue, l'accès à l'eau se raréfie et la guerre autour d'elle se rapproche, comme à Sainte-Soline. Les ressources minérales sont surexploitées, le vivant est compris trop souvent comme ressource qu'il faut s'accaparer. Les États organisent et accompagnent cette situation, législation adaptée, financement dédié, répression des oppositions, accroissement volontaire des peurs pour s'afficher comme le sauveur unique. Tout ceci assure l'expansion du capitalisme en développant sa variante verte. Les États jouent sur les chiffres, déforment la réalité, modifient le vocabulaire en fabriquant une nouvelle langue. Ainsi, comme l'alchimiste change le plomb en or, le nucléaire devient une énergie verte, bas carbone et neutre, alors que c'est une énergie centralisée, reposant sur l'extractivisme mené notamment dans nos ex-colonies, polluant et gaspillant l'eau, engendrant des déchets pour des millénaires et imposant une société sécuritaire et militariste. Devant ce constat, la Fédération anarchiste réaffirme en son 81e congrès à Cologne la nécessité de lutter contre le capitalisme, qu'il soit vert ou non, et pour une décroissance libertaire, entendue comme le ralentissement du cycle production-consommation, désescalade, selon les capacités de la planète et sous réserve que les besoins essentiels des populations soient satisfaits dans quelque partie du monde que ce soit. En effet, les anarchistes postulent que le simple fait de naître donne le droit de vivre de manière égalitaire avec un même accès aux richesses. La Fédération anarchiste insiste sur la nécessité de lutter pour un autre rapport au vivant et à l'environnement, inséré dans une nécessaire révolution sociale et libertaire. Donc je vous rappelle que cette motion du dernier congrès de la Fédération anarchiste s'intitulait « Ni capitalisme vert, ni nucléaire ».
Merci Monique. Voilà, donc effectivement, il va être question, je ne sais pas s'il va être question de vert, parce que tout le monde est un peu vert maintenant, donc on parlerait de tout, quoi, des patrons, des grandes entreprises, tout est vert autour de nous, voilà. En tout cas, on va parler d'un livre qui nous parle de la nature, et de la nature dans son contexte, qui est un contexte effectivement de milieu du vivant, et donc de milieu humain. Et nous avions déjà rencontré Jacques à un salon du livre libertaire, Jacques Desjean, notre invité, qui donc avait fait une première version de ce livre, Nature et anarchie, qu'il a complété récemment. Et comme en plus, il touche à des questions tout à fait d'actualité et qu'on se pose nous aussi.